au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, Olivier Le Serre, vous connaissez peut-être Olivier Le Serre, il y a un prix ici même à l'Institut. Il a été président de Lafarge de 1974 à 1989 et par son action à la tête de cette entreprise, par sa participation à plusieurs réflexions de l'Institut, de l'entreprise et par son livre en particulier, eh bien il a développé une notion dont nous allons parler aujourd'hui, une notion absolument clé en cette période de crise, mettre l'homme au cœur de l'entreprise. Alors évidemment, on parle de management, mais c'est beaucoup plus que du management, vous allez le voir. On parle de tout cela avec Xavier Grenet, qui a reçu donc le prix Olivier Le Serre 2008, ici même à l'Institut. Xavier Grenet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez chargé des cadres, DRH de Saint-Gobain, chargé des cadres, pour être extrêmement précis. Et vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Cahier, joie et tourment d'un DRH ». DRH, on peut le rappeler, c'est un acronyme pour directeur des ressources humaines. Avant, c'était la personne qui était directeur du personnel,
absolument,
d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce changement, Xavier Grenet, entre ressources humaines, personnel? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu déshumanisé, non?
De toute façon, il y a eu un certain nombre de mots différents. On dit quelque part aussi directeur des affaires sociales. Il y a d'autres entreprises qui parlent de direction des relations humaines. Aujourd'hui, c'est essentiellement direction des ressources humaines. Pour être bref, je dirais que c'est un mot que je n'aime pas. En dehors...
Quel aveu !
Oui, c'est un mot que je n'aime pas, mais il faut se référer à l'impératif catégorique de Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs. C'est qu'on ne peut jamais considérer l'homme uniquement comme un moyen, mais toujours et en même temps comme une fin. Je pense que si on est persuadé qu'il y a en tout homme, en tout être humain, une dimension d'absolu, quels que soient les arguments que l'on veuille présenter à cet égard, utiliser l'homme simplement comme une ressource, c'est inévitablement le mutiler. Alors, je n'ai pas dit que nous ne sommes pas non plus des ressources, bien évidemment. Quand je parle à des jeunes cadres, je leur dis ne dites pas pour autant que vous n'êtes pas des ressources, parce que pas de ressources, pas de rémunération. Mais je pense qu'il y a effectivement une émergence de l'homme. C'est la phrase de Pascal, si on préfère. L'homme passe infiniment l'homme, qui fait que voilà, que c'est une expression, je ne veux pas faire une guerre de tranchées contre des mots, mais je pense qu'on pourrait en trouver de plus heureuses. Et avec RH, je préférerais pour ma part les relations humaines, ou si l'on veut même les richesses humaines. Voilà.
Ah oui, c'est vrai. Richesses humaines, relations humaines, on aurait pu y penser. C'est vrai. Alors, Xavier Grenet, justement, parce que ressources, ça fait penser à ressources naturelles, aux ressources minières.
Oui, absolument.
Donc, on puise dedans jusqu'à extinction.
Et puis, si l'homme n'est qu'une ressource et qu'on gère les ressources, et puis l'homme devient une variable d'ajustement, et dans trop d'endroits, ça devient le seul facteur sur lequel on est tenté de jouer pour améliorer les résultats, alors qu'il peut y en avoir également bien d'autres.
Alors, mettre l'homme au cœur de l'entreprise, ça paraît un peu être un vain mot, peut-être pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, qui sont pressurés précisément par la pression qui existe dans le monde de l'entreprise, où on est plutôt asservi plutôt que libéré, non ?
Des 20 mots, j'en sais rien, absolue nécessité, j'en suis intimement convaincu. Et je pense que si, d'une manière ou d'une autre, on ne développe pas l'attention à l'homme dans les entreprises, on ira vers des difficultés qui seront grandes. On le voit déjà aujourd'hui. Bon, il est évident, si vous voulez, pour le dire d'un mot, je pense que le rôle du DRH, mais beaucoup plus largement, le rôle de tout manager, le rôle de tout chef d'entreprise, à mon sens, est en permanence de tenir ensemble deux exigences qui ne vont pas immédiatement ensemble, mais qu'il faut essayer de réconcilier. D'un côté, ce que j'appellerais la performance de l'entreprise, c'est évident que ce soit une entreprise, que ce soit une association, toute organisation, tous ceux qui travaillent dans une organisation, qui ont un contrat de travail avec une organisation, une entreprise quelle qu'elle soit, doivent travailler pour le bien de cette entreprise-là, pour le bien de cette association-là. Et là, je crois qu'il y a, c'est un impératif, c'est le devoir d'État de, je pense, des personnes qui ont ce type de contrat. Mais d'un autre côté, il y a un deuxième impératif que j'aime citer Kant encore une fois, que j'appellerais vraiment un impératif catégorique, absolu si on le préfère, qui est le respect dû à toute personne, à tout être humain. Et de surcroît, on peut remarquer que, vous savez, les Américains qui sont passés maîtres dans l'art de l'efficacité, l'affirment.
Et du management.
Absolument, les Américains disent l'éthique paye. Et si vous vous référez au livre saint, vous trouverez un texte qui dit que aucune famille, aucun royaume divisé contre lui-même ne se maintiendra. Je pense que c'est la même idée. Et si ces auteurs écrivaient aujourd'hui, ils écriraient « Aucune entreprise, de la PME aux sociétés du CAC 40, divisée contre elle-même ne se maintiendra ».
Alors Michel Albert, qui vous a rendu un éloge que l'on peut souligner lors de la remise du prix Olivier Le Serre 2008, je le rappelle, pour Xavier Grenet.
Et dont je lui suis très reconnaissant pour dire les choses.
A parlé des confessions de Saint-Gobain, c'est pas mal ça quand même. Qu'en pensez-vous ?
Bon, c'est un peu trop. D'abord, ce ne sont pas les confessions de Saint-Gobain, ce sont les confessions de quelqu'un qui a travaillé avec passion pendant une petite quarantaine d'années dans ce groupe. Et effectivement, c'est un livre que j'ai écrit à la première personne, ce qui est à bien des égards un risque, qui demande d'ailleurs beaucoup de modestie ou d'humilité, mais je souhaitais un peu témoigner de ce que j'avais vécu et de ce combat permanent dans la vie de l'entreprise pour tenir ensemble, comme je le disais tout à l'heure, ces deux exigences. D'un côté, être sûrement au service de ce beau groupe, parce que c'est un très beau groupe, en tout cas, auquel je dois beaucoup et auquel je reste assez attaché à titre personnel. Et d'autre part, être véritablement et sans tricher et sans dire de ces mots qui font bien quand on les prononce sur des estrades, mais que vraiment on le vit, que d'être au service des hommes et des femmes de cette entreprise-là, et singulièrement, pas uniquement de ceux-là, mais singulièrement quand même, de ceux qui connaissent un moment difficile, qui ont un problème d'évolution. Voilà, je crois que tout cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, et pour le dire d'un mot, puisque vous parliez tout à l'heure de management, moi j'aime bien dire, et je crois que c'est exact, ce ne sont pas simplement des mots, que pour moi, le management, c'est d'abord la reconnaissance de l'autre, c'est l'écoute et c'est la confiance. Alors bien sûr, on ne s'arrête pas là. Ensuite, il faut...
L'idée, ce n'est pas de faire intérioriser les règles par le salarié quand même ? Ce n'est pas un vecteur de discipline ?
Il est bien évident
de vous faire adhérer en fait à la discipline collective.
Il est bien évident que si vous voulez, dans une équipe de rugby, si un joueur se met à ne plus jouer en équipe, bien ça ne se passera pas bien. Si dans une chorale vous chantez votre chanson préférée alors qu'il s'agit d'une autre, bon, mais c'est bien évident qu'il y a un ensemble du bien commun. Mais en même temps, je crois que voilà, il faut que chacun y adhère, mais il faut également que l'institution, l'entreprise, l'association, enfin, je pense qu'elle est valable pour tous les lieux où des hommes et des femmes travaillent ensemble.
Xavier Grenet, on écrit toujours évidemment pour autrui, et on écrit toujours avec une bonne raison. Alors pourquoi écrire précisément sur cette question-là ? On écrit souvent au sujet de l'entreprise pour dénoncer, pour se plaindre, pour peut-être se soulager aussi. Pourquoi l'avez-vous fait, vous ?
Pourquoi j'ai écrit ? Sans doute parce que j'ai répondu à...
À partir de 5000 récits d'entretien. Hein.
Mais disons que j'ai effectivement dans ma vie professionnelle, j'ai certainement passé de longues heures d'écoute avec plus de 5 ou 6 000 personnes. Et d'ailleurs, à titre tout à fait bénévole, je continue aujourd'hui à rencontrer pas mal d'hommes et de femmes éventuellement en difficulté professionnelle. J'ai écrit sans doute pour répondre à une nécessité intérieure. J'ai écrit parce que ces convictions que j'essaie de partager avec vous, pour moi, sont absolument essentielles et que d'une certaine manière, elles ne sont peut-être pas toujours portées par les vents dominants d'aujourd'hui. Et j'avais envie de prendre ce risque. Pourquoi je dis ce risque ? Parce que...
Mais vous voulez porter une autre idée du management ?
Ce que je veux dire, c'est que je crois véritablement qu'en s'intéressant aux personnes, en les respectant, en étant à leur écoute, en essayant d'aider chacun à discerner ce qu'est son chemin, discerner ce que sont ses compétences, les fonctions dans lesquelles il peut le mieux réussir, s'épanouir lui-même, travailler le mieux possible au bien commun de l'entreprise qu'il emploie, je pense que là, on est au cœur de quelque chose d'essentiel. Je pense
mais ça, logiquement, c'est le boulot d'un DRH, non ?
Oui, c'est le boulot d'un DRH, oui.
Ça veut dire que tous ne le font pas ?
Oh, mais bien sûr que si, je ne suis pas là pour juger les autres. Je veux dire que j'ai essayé de le faire et que je pense que c'est un peu un combat de tous les jours parce que les exigences de productivité, la nécessité des résultats, parce que les plans sociaux, parce que la diminution des effectifs, parce que l'accompagnement des personnes qui se sont peut-être fourvoyées dans un emploi et qu'il va falloir aider à trouver une autre situation qui réponde mieux à ce que sont leurs compétences, à ce qu'est leur tempérament, leur manière d'être et de vivre.
Alors, Xavier Grenet, si on essaie de renouer avec le fil d'une actualité un peu dramatique pour le monde de l'entreprise, on pense évidemment à tous ces suicides qui ont pu marquer la vie d'une entreprise comme celle de France Télécom. Il y a eu quantité d'interprétations, de façons d'essayer de voir les choses. Est-ce que vous avez vous-même intimement. Si vous aviez été DRH à ce moment-là, est-ce qu'il y a une réponse possible humaine? Est-ce que ça révèle des failles du monde de l'entreprise en général? Est-ce que ça révèle une difficulté de passer d'une entreprise publique à une entreprise privée? Est-ce que vous avez votre intime conviction?
Je ne connais pas la grande entreprise dont vous parlez de l'intérieur et je pense que toute réponse de ma part doit être d'abord marquée d'une grande modestie. Cela étant dit, je pense aussi que il y a des entreprises, dont celles que vous évoquez, qui sont face à des défis technologiques marqués d'une extrême urgence et dans lesquels il y a des changements à opérer de manière rapide, au risque sinon de mettre en cause le bien commun et d'avoir des conséquences également désastreuses sur le plan social et sur le plan des personnes. Cela étant dit, je vous disais à l'instant que je crois véritablement que le cœur du management, c'est l'écoute. C'est la confiance, c'est de savoir donner du temps aux autres. Et le temps de l'écoute, ce ne sont pas les conversations entre deux portes à la va-vite, ce ne sont pas simplement des conversations où on veut absolument convaincre quelqu'un d'une nécessité qu'il ne ressentirait absolument pas lui-même. Donc tout ça vraiment demande du temps. Je répète un peu les mêmes mots, j'en suis bien conscient, mais je crois que c'est véritablement important. Une autre remarque que je ferai, c'est que un suicide est toujours un drame absolu. Je n'imagine pas que ce type de drame puisse jamais avoir une seule cause, mais je pense en même temps que s'il y a un suicide dans une entreprise, a fortiori s'il y en a plusieurs, mais un seul suffit, ça ne peut pas ne pas interroger profondément ceux qui sont en responsabilité. Je ne dis pas en cela qu'ils sont coupables, et je me garderai bien, et au nom de quoi? Mais je veux dire que tout cela montre quand même que cette conciliation, ce tenir ensemble dont je parlais tout à l'heure, de l'exigence de compétitivité, de rapidité, de résultats et donc de mutation des personnes ne peut pas se faire en quelques instants. Vous savez, les femmes le savent quelquefois mieux même que les hommes. Il faut 9 mois pour faire un enfant, et ensuite pour faire un homme, il faut beaucoup, beaucoup plus de temps. Tous les parents le savent. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de jouer davantage avec le temps, avec la durée. Et je pense qu'on ne peut pas...
Ça, c'est le maître mot, hein, apparemment.
Pour moi, c'est important. On ne peut pas... Une machine, ça se déplace. Un robot, la personne... Vous savez, il y a un poète que j'aime particulièrement, Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé, toute sa poésie, c'est pour nous dire, et toute une poésie de la suggestion. Suggérer, voilà le rêve. Eh bien, je pense qu'avec les êtres humains, ça ne se manipule pas. Je ne veux pas dire que chacun doit chanter sa petite chanson préférée, mais je veux dire, je le répète, il faut prendre le temps de la conviction, le temps de l'écoute, le temps de l'échange, et puis conduire les hommes, ça consiste aussi à les former. Et j'imagine volontiers que lorsque vous changez complètement d'activité, de secteur, à un âge déjà avancé, vous êtes pris de crainte, vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Si vous n'avez pas en face de vous des formateurs, des personnes qui vous aident à reprendre cette confiance en vous, qui vous accompagnent, eh bien je pense qu'il peut y avoir effectivement des crises, qui sont des crises morales, psychologiques, que sais-je. Si tout ça en plus s'accompagne chez des personnes qui peuvent vivre aussi d'autres situations difficiles dans les autres sphères de leur existence, je pense qu'on peut arriver à mettre des hommes et des femmes aux abois et contribuer. Je ne sais pas jusqu'où du tout l'entreprise est responsable, mais ça peut arriver à toutes les entreprises, contribuer à des drames humains et qu'il faudrait mieux essayer d'anticiper, de préparer.
Mais alors quand un tel drame survient, Xavier Grenet, mettons-nous un petit peu dans une forme de politique fiction, quand un tel drame survient, quelle est la bonne réaction du DRH? Est-ce qu'on doit en parler à toute l'entreprise? Est-ce qu'il y a des procédures d'urgence d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a un bon comportement à ce moment-là pour éviter la contagion?
Écoutez, je n'ai pas été soumis à ce genre de problème dans l'entreprise que j'ai servi pendant 36 ans, je crois exactement. Bon, réagir à chaud en cas de crise, bon, sûrement il faut offrir aux femmes et aux hommes concernés des temps de parole, des temps d'écoute, des temps d'échange. Mais ce qui serait sans doute une erreur, c'est simplement de réagir à chaud, il faut certainement faire quelque chose à chaud, mais je n'ai pas de recette toute faite. Ça se situe en tout cas tout à fait dans la ligne de ce que nous évoquons ensemble. Mais je pense que ça pose aussi des questions pour le moyen et le long terme, c'est-à-dire quelle structure mettre en place dans nos organisations pour que les hommes, les femmes, les salariés se sentent davantage reconnus, pour qu'ils aient des lieux d'expression. Et je reste persuadé que le cœur du métier de DRH, ce n'est pas dans les techniques, ce n'est pas dans les outils, ce n'est pas dans les concepts.
Donc ils sont submergés d'ailleurs. Hein.
C'est dans le temps donné aux autres. Et je pense qu'ici, il y a une chose qu'un DRH ne devrait jamais sous-traiter, c'est le temps de l'écoute et le temps de la connaissance des personnes. Alors, si ce n'est pas le DRH tout à fait au sommet du groupe qui s'en occupe, si c'est un autre, peu importe. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait à l'intérieur du management de toute organisation quelqu'un qui soit véritablement lié au pouvoir, c'est-à-dire qui est une forme d'autorité et qui soit réellement dans cette attitude.
Xavier Grenet, vous restez avec nous. Cahier Joie et tourments d'un DRH aux éditions du CERF. Vous étiez DRH du groupe Saint-Gobain chargé des cadres et vous avez reçu le prix Olivier Le Serre 2008. A tout de suite.
Un jour dans l'histoire revient sur un épisode tragique de la Pologne, le charnier de Katyn. Prise dans un étau, dépecée entre l'Allemagne et la Russie, la Pologne est l'objet d'un crime de guerre incarné à Katyn en 1939, où plus de 20 000 corps furent retrouvés. Retour sur ce moment de l'histoire en compagnie d'Alexandra Viato, docteur en lettres russes et polonaises à l'université de Paris 4 Sorbonne, Katyn, crime de guerre, crime de mémoire, une émission à télécharger librement sur le site de Canal Academy.
Et notre invité est Xavier Grenet, qui était DRH du groupe Saint-Gobain, chargé des cadres, cahier Joie et tourments d'un DRH aux éditions du CERF. Vous avez reçu le prix Olivier Le Serre 2008 pour justement, il faut le rappeler, ce prix récompense un management, une attitude qui consiste à mettre l'homme au cœur de l'entreprise. Et on a bien vu, Xavier Grenet, à travers tout ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, que le temps était un critère absolument décisif, pouvoir consacrer du temps à l'écoute, écouter ceux dont on a la responsabilité de l'orientation professionnelle et que c'est peut-être par cette chose-là qu'il faut commencer pour éviter de connaître ce que certaines entreprises françaises ont pu connaître récemment dans l'actualité jusqu'à ce que cela constitue des drames absolus. Alors, je reprends ce que vous dites. Le DRH, donc directeur des ressources humaines, est un pépiniériste, un jardinier, un couturier cousant à la main. C'est une forme d'artisan, y compris dans les grosses boîtes, Xavier Grenet ?
Je crois véritablement que c'est de l'artisanat. Je ne crois pas qu'on puisse avoir la responsabilité d'hommes et de femmes, que ce soit pour les diriger opérationnellement, pour les guider dans leur cheminement, si on ne travaille pas à l'unité. Oui, un couturier, mais à une condition, c'est un couturier qui coud à la main. Quand je dis un pépiniériste, c'est-à-dire que je ne dis pas que tout le monde est capable de tout, je dis que chez tout être humain, il y a, c'est une banalité ce que je dis, nous le savons tous, il y a des talents, il y a des compétences à faire surgir, à faire reconnaître. Il faut aider les personnes à prendre confiance, à se focaliser autour de... Nous avons chacun quelques cordes à notre lyre. Eh bien, il vaut mieux essayer de pincer ses propres cordes que d'aller biner dans le champ du voisin. Puis je voudrais ajouter un petit mot à propos de ce que vous disiez à l'instant en commençant. Effectivement, je fais un peu l'éloge de la lenteur et je suis parfaitement conscient de ce paradoxe dans un monde où tout va de plus en plus vite, où on ne parle que de changement, où on parle en permanence d'adaptation. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une adaptation des choses, s'il y a une adaptation des machines, s'il y a une adaptation des concepts, et que les êtres humains ne suivent pas, et un être humain, ce n'est pas simplement un cerveau, c'est un cœur, c'est une psychologie, c'est un corps, c'est une fatigue, c'est un doute sur soi-même. Véritablement, je veux faire aucun misérabilisme. J'ai travaillé dans une entreprise extrêmement performante qui a eu des très beaux résultats, qui a été dirigée et qui est encore dirigée par des personnes éminentes. Et je suis à la retraite, je n'ai rien à leur demander en échange de ce compliment. Mais donc, c'est vraiment pas un éloge du misérabilisme, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a une attention toute particulière à avoir au temps, à la lenteur, prendre le temps. Alors, tout ça, en même temps, il faut le gérer parce qu'il faut prendre le temps. Et j'imagine bien des patrons qui diraient,
le temps, bah,
écoutez, qui
le
prennent temps, le temps, mais qui prennent le temps vite parce que time is money. Oui, absolument. C'est un paradoxe. Et c'est précisément parce que c'est un paradoxe qu'il y a là un combat moral.
Alors, comment, Xavier Grenet, vous, le pépiniériste, comment d'un bonsaï vous faites un séquoia dans l'entreprise ?
Des fois, être très modeste dans la vie, mais j'ai jamais fait des choses aussi belles. Mais je crois que c'est mon livre s'intitule Joie et tourments d'un DRH, c'est-à-dire que des tourments, j'en ai eu beaucoup, mais des joies et des grandes joies, j'en ai eu également beaucoup. Et chaque fois que vous pouvez être le témoin, en l'accompagnant plus ou moins de quelqu'un qui retrouve mieux son chemin, enfin, chaque fois que vous pouvez aider aussi modestement que ce soit un autre à grandir, à être mieux avec lui-même, à réussir mieux dans sa vie professionnelle parce que précisément il y aurait eu telle ou telle évolution, bah, c'est une très très grande joie, je pense que...
Donc la première des qualités d'un DRH, c'est la psychologie, c'est arriver à cerner les caractères, l'intimité des cœurs.
Je pense que c'est l'écoute. J'ai souvent eu le sentiment que je faisais un métier de, on pourrait dire, de caisse de résonance, ou à Saint-Gobain, je dirais plus joliment, de miroir, c'est-à-dire être attentif à l'autre et puis lui renvoyer des questions. Je citais Mallarmé, suggérer voilà le rêve. Je crois que ce jeu, cette maïeutique, ce jeu de questions et de réponses, mais... À mon avis, ce n'est pas très difficile à comprendre parce que chacun d'entre nous, s'il se souvient, ou bien tous ceux d'entre nous qui sont encore un peu dans les débuts de leur vie professionnelle, et ça dure quelquefois plus longtemps d'ailleurs, savent qu'en permanence, on peut douter et qu'on est tous à la recherche d'une oreille qui ne sera pas complaisante, mais qui sera bienveillante, et d'un regard d'un autre. Je pense que moi, je recommande à beaucoup de cadres dans leur vie professionnelle d'essayer de rencontrer pas seulement une personne. Je crois beaucoup à tous ces regards croisés et que si on est chacun peut essayer de parler avec d'autres dans la confiance, dans un minimum de fraternité, ce qui ne veut pas dire de faiblesse, ce qui peut vouloir dire quelquefois de douceur, mais les doux, ça s'écrit avec un D et pas avec un M. Il me semble qu'à ce moment-là, chacun peut être mieux avec lui-même, peut reprendre confiance quand les choses deviennent difficiles. Quand vous dites cela, je ne voudrais pas avoir l'air d'un humaniste mou ou à côté. Mais vous savez, si on y réfléchit, et ça, j'ai fait cette expérience avec 100 000 personnes, et nous la faisons tous, tant que la vie, la société dans laquelle je travaille, l'association me donne des éloges, me promeut des belles augmentations, un élargissement de mes responsabilités, ben, je suis tenté de penser que le monde est juste et qu'il choisit bien. Et puis le jour où à 46, 47, 48 ans, peut-être avant, j'ai un premier pépin professionnel, que j'ai le sentiment que ce monde n'est vraiment pas juste, qu'on n'a pas tenu compte de ce que j'ai fait, que je suis pénalisé parce qu'il y a un accroc qui peut-être même ne dépend pas de moi, etc. Eh bien à ce moment-là, on comprend que ce n'est pas de la douceur molle, mais que c'est véritablement dans cette relation entre des hommes que se joue, que se noue, cette fraternité qui nous permet aux uns et aux autres d'exister davantage.
Donc un DRH, on va le voir quand ça va mal.
Non, pas uniquement. Ça, je veux dire que si le DRH n'est qu'une assistante sociale, qui est un métier hautement respectable, en tout cas pour lequel j'ai vraiment beaucoup de respect, il ne ferait pas totalement son métier, c'est une évidence. Le DRH, il doit aider à sélectionner, à choisir ceux auxquels on va confier les plus importantes responsabilités. Il est complètement dans ce travail de création, de promotion, de recherche de l'excellence. L'atteinte de l'excellence, ça c'est une autre chose. Il faudrait peut-être beaucoup de... Enfin, faut se méfier de ces mots qui sont quelquefois, qui disent quelquefois beaucoup plus que la réalité. Mais tout cet aspect positif, créateur, est très important. Mais d'un autre côté, il ne fait pas son métier complètement s'il n'est pas attentif à ceux que cette recherche de performance risque de laisser sur le bord du chemin. Vous savez, je trouve qu'il y a un mot en français qui dit très très bien cette dualité. C'est le mot de passion. Parce que la passion, tous les amoureux le savent, la passion c'est d'aimer, la passion c'est de créer, la passion c'est d'entreprendre, la passion c'est de réussir. Mais la passion c'est aussi de souffrir, la passion c'est quelquefois d'avoir un genou en terre, la passion c'est de mourir, voilà. Je crois qu'il faut en permanence tenir cette double dimension. Et je pense que chaque fois qu'on n'en garde qu'une, eh bien on atrophie une fois encore quelque chose d'essentiel dans l'être humain.
Xavier Grenet, justement, puisqu'on en est, et vous l'avez dit à l'instant, on en est au stade justement où il faut tenir constamment ces deux dimensions. Est-ce que vous avez été amené en qualité de DRH, donc je le rappelle, le groupe Saint-Gobain, les cadres, quand il faut gérer une pyramide des âges, est-ce que vous avez été amené, malgré vous, à mettre des gens en pré-retraite, à congédier des personnes qui étaient qualifiées, qui auraient pu encore rendre service à l'entreprise, mais à les congédier plutôt que prévu parce qu'elles coûtent trop cher à l'entreprise? Est-ce que vous avez fait autre chose que ce que font la plupart des grandes entreprises aujourd'hui?
Écoutez, si nous n'avions jamais fait d'erreur, ça se saurait. Voilà, donc nous avons certainement fait des erreurs. Oui, nous avons mis des personnes en pré-retraite. L'a-t-on fait trop? Je dirais en permanence, il y a des questions à se poser. Ce qui me paraît également important, c'est la manière de faire les choses. Il y a vraiment, je crois, une tradition dans le groupe. Saint-Gobain a fermé des usines. Saint-Gobain a licencié des hommes et des femmes. Saint-Gobain a fait beaucoup de choses difficiles. Je ne voudrais pas... Vous savez, c'est la critique de Peggy, critique à mon avis très injuste, mais enfin, c'est la critique de Peggy sur Kant, c'est qu'il a les mains propres, mais qu'il n'a pas de mains. À Saint-Gobain, nous avons des mains et j'ai participé à beaucoup de choses et tout ce que j'ai fait n'est vraiment pas formidable, tant s'en faut. Ce que je crois, c'est que nous avons toujours veillé, cherché, et que ça a vraiment toujours été la volonté et de Jean-Louis Beffa, et aujourd'hui de Pierre-André Chalandard, et de l'ensemble des dirigeants de ce groupe, de ne jamais laisser quelqu'un seul face à son problème, c'est-à-dire d'accompagner les mutations, que ce soit sur le plan social, même dans le cas de fermeture d'établissement où Saint-Gobain a une organisation relativement très performante, Saint-Gobain Développement, pour accompagner précisément les restructurations, prendre en charge les personnes qui, pour telle ou telle raison, devront quitter le groupe. Également dans les évolutions personnelles des cadres, des dirigeants, et peut-être sans doute, sûrement, avons-nous fait également quelques erreurs. Mais je dirais en tout cas que cette volonté d'attention à l'autre, tout n'est pas simplement dans... C'est Napoléon, je crois, qui disait que la stratégie était un art tout simple et tout d'exécution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement les grandes décisions que l'on prend, il y a aussi la manière de les mettre en œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut plus s'engager à conserver ses salariés. Je veux dire, une entreprise qui ferait cette promesse serait une entreprise qui prendrait le risque de mentir. Mais ce qu'une entreprise doit faire, c'est accompagner suffisamment les hommes et les femmes qui lui ont fait confiance pour les mettre en permanence en état de pouvoir évoluer.
Mais accompagner, si un jour... ça veut dire qu'on vous met à la porte avec le sourire ou dans de bonnes conditions, non. On vous reclasse, qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a indiscutablement la manière de le faire. Il y a également aider les personnes à retrouver un emploi, aider efficacement les personnes à retrouver un emploi. Et cela veut dire également, et ça se travaille en amont, offrir à l'ensemble de nos salariés suffisamment de formation et de suivi permanent pour qu'ils puissent acquérir les nouvelles compétences qui seront utiles demain. Je crois que dans la société que vous évoquiez tout à l'heure, il y a une partie des difficultés vient de ce que des hommes et des femmes ont dû changer de métier. Si changer de métier est être face à quelque chose de nouveau auquel on ne se sent pas préparé ou on a peur de ne pas réussir, c'est évident que c'est créateur de stress, que c'est créateur de difficultés. Donc, je dirais, il faut essayer d'anticiper. Cela dit, je voudrais qu'il n'y ait pas un seul mot de ce que je vous dis qui puisse donner à penser que je saurais mieux le faire qu'un autre ou que j'en serais capable. Ce que je dis, c'est une attention de tous les instants, c'est une vigilance, c'est une conscience très forte que nous devons avoir que les êtres humains, ça ne se manipule pas, ça ne se manie pas comme des choses.
Alors, pourtant, il y a une logique aussi qui est planétaire, qui est de faire fabriquer de plus en plus ce qui relève peut-être d'une main-d'œuvre moins qualifiée dans des pays à bas coût, la Chine ou d'autres.
Oui, mais vous avez peut-être remarqué qu'à la radio de ce matin, on annonçait que la Chine commençait à délocaliser en Égypte.
Oui, mais justement, parce qu'il y a du dumping social permanent.
Voilà, c'est-à-dire que là, la route tourne. Et peut-être qu'un jour, quand ces pays-là se seront beaucoup développés, ils délocaliseront en France, on ne sait jamais.
Du coup, il faut souhaiter évidemment que les pays pauvres se développent. Mais absolument. La logique quand même des grandes entreprises, c'est de faire fabriquer évidemment au plus bas coût.
C'est évident que les prix de revient, c'est...
Est-ce qu'un DRH peut faire valoir une autre idée, celle du temps, de l'investissement sur le long terme, le fait d'investir dans un certain tissu social qui va se trouver en France, tout simplement, plutôt que de fermer des usines et de faire fabriquer par des Chinois, des Philippins, des Égyptiens, ce que vous voudrez. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une conscience et une responsabilité sociale à vouloir garder des emplois en France?
Vous me pardonnerez d'être d'une extrême prudence dans ma réponse parce que j'ai cherché à être le plus professionnel possible dans mon métier, mais je me garderai de toute parole de type un peu incantatoire. C'est évident que tout ce qu'on peut garder en France, puisque nous parlons ici que nous sommes en France, parce que malgré tout, j'ai travaillé aussi dans un groupe très, très international, et donc je ne crois pas que le problème soit exclusivement français. Bon, si on peut, c'est mieux qu'il y ait une répartition en même temps en fonction de la complexité des produits. C'est vraisemblable aussi. Si vous voulez, je me méfierais de réponses trop simples et puis je ne pense pas.
Mais la question, c'est est-ce qu'un DRH peut avoir son mot à dire et peut faire valoir une autre vision dans l'entreprise ? Est-ce que ça peut être perçu ou reçu comme tel ?
Jamais je n'aurais cherché à faire valoir des arguments qui auraient nui à la compétitivité de mon groupe. Je crois que le jour où je fais cela, je ne suis plus dans mon métier, dans ma fonction. Quand je dis tout à l'heure tenir ensemble, ça veut dire tenir les deux. C'est-à-dire le respect des personnes, tout ce que je viens de dire sur l'homme, enfin l'homme au cœur de l'entreprise. Mais d'un autre côté, ne jamais faire cela au risque d'handicaper les résultats ou la compétitivité de votre entreprise. Et je crains
qu'à... Donc si on est compétitif en faisant fabriquer en Chine, vous dites oui.
Pour moi, c'est une évidence. Alors c'est peut-être une évidence cruelle, mais ça veut dire que si, et nous l'avons fait, tous les groupes le font. Si un jour on ferme un établissement qui n'a plus du tout la rentabilité nécessaire et qu'on fait produire dans un autre pays à plus bas coût, parce que même le coût de transport, avec le coût de transport, tout cela permet de remettre dans la compétitivité une activité qui sans ça serait en perte grave. Je pense qu'un DRH qui voudrait s'opposer à cela...
Donc la priorité, c'est quand même la performance, Xavier Grenet.
Non, il est que de telles décisions vont mettre en cause des personnes, et bien que la responsabilité de l'entreprise par rapport à ces personnes-là est aussi importante que la responsabilité de l'entreprise par rapport à ses résultats. Tenir ensemble, ça veut dire garder les deux. Mais c'est vrai qu'en permanence, la tentation, c'est que l'un chasse l'autre.
Est-ce que le discours qui consisterait à dire à une direction, mais voyez, ne délocalisez pas, investissons sur le long terme, sur les forces vives en France, je ne sais pas, est-ce que ce discours a pu être recevable ? Ou est-ce qu'on vous rit au nez en disant « Mais attends, Coco, tout le monde fait la même chose, tout le monde va en Chine, tu vas pas nous... Pardonnez-moi d'être extrêmement cavalier, tu vas pas nous gonfler avec tes sentiments humains. »
Attendez, je n'ai jamais été faire la défense des sentiments humains. Je ne suis pas un humanitaire, j'étais un cadre dirigeant du groupe Saint-Gobain.
Un bâtisseur d'humanité.
C'est ce que mon préfacier, M. Roger Fourou, a dit. Voilà, il me donne une certaine joie si c'est ça qu'il a lu et si c'est ça qu'il croit exact. Moi, je n'oserais jamais m'attribuer ces mots-là. Non, mais si vous voulez, j'ai eu beaucoup de... Dans le groupe Saint-Gobain, il y a des personnes qui ont des compétences infiniment supérieures aux miennes pour tout ce qui concerne la stratégie, le développement des activités, etc. Et je me suis toujours bien gardé d'aller dire des paroles incantatoires ou qui auraient pu sembler des paroles de moraliste jugeant les autres. Je faisais partie d'une équipe. Si j'étais face à un problème qui était difficile et dont je comprenais que la nécessité économique, industrielle, etc. faisait que c'était une décision lourde et difficile, ma responsabilité n'était certainement pas de la contester ou de la mettre en question. Elle était, pour ce qui était de ma responsabilité, de l'accompagner en mettant au premier rang le souci des personnes et des organisations. Voilà.
Alors, Xavier Grenet, si, vous êtes tout à fait clair sur la question de... On voit bien quand même que le rôle du DRH est extrêmement, vous le dites constamment d'ailleurs, tenir ces deux exigences qui sont contradictoires. Alors, est-ce que vous êtes plus du côté de la direction, plus du côté... Est-ce qu'il faut d'ailleurs avoir une logique binaire de l'entreprise ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est plus du côté de la direction, plus du côté des salariés ? C'est vrai que ça a dû être difficile... Pas toujours facile à tenir.
Je pense que dans la vie, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent avoir le sentiment de temps en temps d'être entre l'arbre et l'écorce, entre le marteau et l'enclume. Il y a un mot que j'aime bien aussi, que je dis souvent. Je pense que le DRH est un passeur. Et ça veut dire quoi être un passeur ? Ben, précisément, c'est je crois n'avoir jamais trompé sciemment. J'ajoute sciemment parce qu'on peut faire des erreurs, aucun salarié. Et n'avoir jamais menti à aucun des cadres de ce groupe qui m'ont fait confiance. Mais j'ai toujours été solidaire de la direction de mon groupe.
Xavier Grenet, évidemment, pour vivre de manière approfondie tout ce que vous nous dites, on se reportera à votre ouvrage « Cahiers, joies et tourments d'un DRH » aux éditions du CERF. Vous dites que votre métier est un métier spongieux, une éponge qui reçoit tout, tout ce qu'elle reçoit, oui, à la faveur de l'écoute qu'elle accorde aux autres.
Il faut beaucoup d'écoute et de bienveillance.
Est-ce qu'il y a un témoignage, rapidement, que vous pourriez nous faire partager, une histoire, un itinéraire, un éclair comme ça dans la vie de l'entreprise et des 36 ans que vous avez passé à Saint-Gobain à vous occuper des cadres?
C'est difficile de mettre...
J'imagine qu'il y en a plusieurs,
c'est
évident. Une histoire
plus qu'une autre, effectivement. Je vais pas inviter vos auditeurs à lire mon livre, dans lequel ils en trouveront 10, 20, 30, 40 et même plus. Mais ce sera plutôt une histoire anonyme, c'est-à-dire qui sera un peu une synthèse de 50 autres. C'est chaque fois que vous êtes avec quelqu'un dans un moment de très grande difficulté, qui risque de se terminer dans un peu de violence parce que l'organisation ne veut pas, demande que quelqu'un évolue, quitte sa responsabilité et que celui qui est concerné s'y oppose, ne comprend pas. Je dirais que chaque fois que j'ai pu accompagner ces personnes-là, les aider à comprendre de l'intérieur ce qu'il pouvait y avoir. Alors évidemment, si j'ai eu le sentiment qu'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement injuste sur une personne, là, et ça m'est arrivé à plus qu'à mon tour, j'ai pu me mettre en obstacle. Autant je ne me mettrai jamais en obstacle sur des grandes décisions de stratégie qui demandent des compétences que, indiscutablement, je n'ai pas. Autant lorsqu'il s'agit d'un problème d'homme, là, je me suis mis en obstacle un nombre significatif de fois. Mais lorsque c'est quelque chose qui, pour autant que je puisse juger, me paraissait juste, raisonnable, triste sans doute, mais une nécessité, chaque fois que j'ai pu accompagner les personnes pour qu'elles arrivent à le comprendre de l'intérieur, qu'elles puissent d'une certaine manière y adhérer et que cette crise ne soit pas simplement une occasion de destruction, mais beaucoup plus de renouveau et de repartir et qui leur permette de repartir dans un chemin qui était davantage le leur, eh bien voilà, pour moi, c'est ça les belles histoires. Et ceci a été créateur de beaucoup de confiance. Et puis, je vais vous ajouter autre chose, c'est que dans un grand groupe, si le DRH, si les personnes qui sont en charge des autres, de l'écoute, de créer la confiance, etc., si ces personnes-là mentent ou trichent, ça se saura bien vite. Et à mon avis, ils auront beaucoup de temps libre dans leur journée. En revanche, si vous acceptez de ne jamais tricher, en tout cas de jamais tricher délibérément, de ne jamais mentir, de ne pas employer les mots si ça ne correspond pas à la vraie réalité, eh bien, vous créez la confiance. Et vous savez, c'est comme dans tous les groupes. S'il y en a 10, 20, 30, 40 qui commencent à dire que oui, on peut faire confiance, que oui, eh bien, alors à ce moment-là, c'est plutôt le temps libre qui vous manque.
Le temps, la confiance, Xavier Grenet. Deux mots que l'on retiendra en particulier.
Et l'écoute.
Voilà, un triptyque, une sorte de trinité du DRH. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Xavier Grenet, ancien directeur des ressources humaines ou des relations humaines du groupe Saint-Gobain, chargé des cadres, prix Olivier Le Serre 2008, cahier Joie et tourments d'un DRH, préfacé par l'ancien ministre Roger Fourroux. C'est aux éditions du CERF.
Merci à vous.